Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
C'est un homme de conviction, c'est le moins que l'on puisse dire, que je reçois ce matin, délégué général d'Alliance Vita, co-initiateur du Courant pour une écologie humaine. Notre homme est une personnalité, ancien porte-parole de la Manif pour tous, auteur récent d'un ouvrage intitulé « Le temps de l'homme ». Pour une révolution de l'écologie humaine, il appelle de ses voeux rien moins qu'une révolte anthropologique, j'ai nommé Tugdual Derville. Alors, Tugdual Derville, bonjour.
Bonjour Emmanuel Pella.
Courte introduction, mais on va avoir le temps de faire connaissance un peu avec vous et puis avec ce livre donc, que vous avez écrit. Peut-être, en effet, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous pouvez redire à gros traits qui vous êtes, parce que vous êtes connu comme une personnalité du monde associatif, comme on dit, mais c'est peut-être pas exhaustif de ce que vous êtes. Alors, je ne vous demande pas une présentation générale. Comment vous présenteriez à ceux qui ne vous connaissent pas ?
Bon ben, j'aime bien partir peut-être de la fondation d'un bras ouvert il y a maintenant 30 ans parce que ces enfants et puis ces jeunes porteurs de handicap, associés de polyhandicap, ça a été vraiment mon école anthropologique. C'est ce qui m'a fait découvrir avec émerveillement la beauté de toute personne humaine. Et paradoxalement, c'est au travers du handicap que j'ai vu ça ou que j'ai ressenti en rencontrant un petit garçon quand j'avais 20 ans.
Donc c'est une association, donc redites peut-être l'objet
de cette
association.
Qui accueille des enfants et des jeunes porteurs de handicap depuis maintenant 30 ans. Il y a 25 groupes dans toute la France et qui les accueille pendant des week-ends ou des vacances par des accompagnateurs. Voilà, il y a à peu près 1000 accompagnateurs qui partent chaque année. Et un bras ouvert, au fond, nous fait découvrir à la fois notre capacité de respecter et d'aimer celui qui est si différent et qui a aussi besoin d'être accompagné dans des gestes quotidiens de sa vie. Mais pour moi aussi, il m'a fait découvrir cette capacité de ne pas aimer, de rejeter. Et cette ambivalence, au fond, qu'il y a en chacun de nous face à celui qui est différent, qui fait peur, que ce soit un migrant, que ce soit un détenu, que ce soit peut-être un de nos parents devenu très âgé, etc. Il y a cette ambivalence en nous. Et du coup, j'ai cherché dans mes différentes activités ensuite à essayer de promouvoir ce respect de la vie, mais qui s'ancre dans le réel de notre difficulté justement à pleinement accueillir nos propres vies, la vie des autres. Donc pas dans une idéologie souvent un petit peu déconnectée du réel.
Alors, vous avez écrit ce livre, je le dis, on peut le dire à cette antenne, c'est un très beau livre qu'il faut vraiment lire et qui aide à décrypter l'époque dans laquelle on est. Pourquoi est-ce que vous avez écrit ce livre ? Vous me disiez en préparant l'émission que vous l'avez écrit entre autres, quelque part, pour mettre des mots sur ce qui se joue aujourd'hui, pour aider les gens à entrer dans l'histoire.
Oui, parce que je crois qu'il se joue dans l'histoire de l'humanité et en France en particulier, une sorte de bras de fer sur ce qu'est l'homme. Est-ce que l'homme est cet homo sapiens basique que nous sommes, vulnérable, fragile, mortel, ou est-ce qu'il doit devenir cet homme omnipotent, omniscient et immortel que nous promettent les tenants du lobby du transhumanisme pour des tas de raisons qu'il faudrait bien sûr pouvoir expliciter. Et je crois que la France, qui est le pays des droits de la personne, a fait naître ces temps derniers une sorte de résistance qui d'ailleurs est présente dans tous les champs de l'échiquier politique face à cette marchandisation du corps, au fait de traiter l'être humain comme un objet qu'on vend, qu'on achète. Je pense notamment à la gestation par autrui qui s'est déployée très très vite à nos portes, en Belgique, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, dans des pays pauvres d'Asie, mais pas en France, qui résiste encore et toujours à l'envahisseur de cette marchandisation du corps, parce que la France est le pays des droits de la personne. Et au moment où l'humanité a mis le doigt sur son tout premier commencement, c'est-à-dire sur l'essence même de ce qui le fait, sur l'embryon qui peut être manipulé. En Chine existe déjà la fabrication d'embryons OGM, génétiquement modifiés, qui ne naîtront pas, dit-on, mais peut-être bientôt des bébés OGM. Au Mexique est né, il n'y a pas tellement de temps, d'un savant chinois travaillant aux États-Unis et tout ça pour l'offrir, entre guillemets, à des parents jordaniens, un bébé, le premier au monde, qui est né de deux mères et d'un père génétique.
Vous en parlez dans votre livre.
Pour la première fois, il y a eu la transgression de cette parité originelle dont nous sommes tous issus. Quelle que soit notre condition, notre foi, notre religion, notre histoire, jusqu'alors, nous étions tous nés d'un homme et d'une femme. Et voilà donc le moment pour nous. Une révolte, vous l'avez dit, oui, j'assume, mais c'est aussi et surtout un engagement pour que les générations futures bénéficient des repères magnifique dont nous avons hérité de nos parents, notamment cette parité originelle et d'autres repères qui sont fondateurs de l'humanité et protecteurs de nos libertés.
Alors peut-être pour ceux qui ne sont pas forcément familiers de tous ces sujets, il y en a certainement parmi nos auditeurs, je voulais dans cette première partie avec vous, ce préambule fait, redire ce que vous dites assez largement dans votre ouvrage, même si ce n'est pas un ouvrage catastrophique, loin s'en faut, redire un petit peu la gravité de la situation, parce que voilà, il faut être averti, ça ne fait pas toujours la une des médias. Vous citez entre autres, donc dans votre ouvrage, le professeur René Frydman, qui est donc le co-auteur, le père du premier bébé éprouvette français, vous nous expliquerez, vous nous présenterez peut-être rapidement, qui dans votre livre a une citation complètement hallucinante, je pense qu'on peut le dire comme ça, même sans trop de parti pris, où en fait il décrit la manière dont il trie des embryons humains, je trouve que c'était un exemple assez symptomatique peut-être de cette tentation de la toute-puissance que vous décrivez aujourd'hui chez l'homme contemporain. Est-ce que vous pouvez nous rappeler cette citation, nous dire ce qui est dit exactement?
Alors je la connais pas forcément par cœur, mais je sais qu'il exprime que voir un embryon d'un dixième de millimètre, pouvoir déceler une tache sur cet embryon, on l'imagine
juste
au microscope.
René Frydman, redites-nous qui est-ce peut-être.
C'est l'auteur d'Amandine avec Jacques Testard, généticien. C'est l'auteur du premier bébé éprouvette français qui est né en 78, je crois, j'espère, je ne sais plus si je confonds avec l'anglaise, enfin bref, dans ces eaux-là, pardon hein, de ne pas être aussi précis que je le voudrais. Et c'est un excellent, je voudrais dire, un excellent accoucheur. J'ai une amie qui a accouché d'un bébé de près de 5 kilos dans les mains de ce médecin. Je ne veux pas le contester en tant qu'homme, mais quand il exprime ce tri d'embryon au microscope et qu'il dit pouvoir effacer cette image, c'est-à-dire effacer l'embryon porteur d'une anomalie, c'est comme dire lève-toi et marche. C'est-à-dire qu'il utilise cette formule christique, hein, qui est celui qui guérit d'une paralysie, il l'utilise à l'inverse, c'est-à-dire effacer la vie de celui qui ne verra pas le jour, eh bien c'est pour lui comme sauver l'humanité. Et voilà ce qu'on inverse. Et je voudrais citer, du coup, là, celle-là, je l'ai retrouvée parce que j'ai feuilleté fiévreusement mon livre pendant que vous posiez votre question. C'est Francis Crick, qui est le découvreur, un des deux co-découvreurs de l'ADN, et qui donc est un magnifique scientifique au plan mondial, qui nous a aidé, l'humanité, à décrypter notre carte génétique, on peut dire. Voilà ce qu'il dit. Aucun enfant nouveau-né ne devrait être reconnu humain avant d'avoir passé un certain nombre de tests portant sur sa dotation génétique. Et il conclut en disant, s'il ne réussit pas ces tests, il perd son droit à la vie. Alors ce que je dénonce là, c'est vrai, dans une forme de révolte, et surtout avec mon expérience de vie auprès d'enfants handicapés ou polyhandicapés, c'est que des scientifiques prestigieux, très intelligents, qui pensent devoir nous sauver de notre vulnérabilité, vont jusqu'à assumer des postures extrêmement eugéniques. Ils sont.
Rappelez, eugénique, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire qu'au fond, pour eugénie, améliorer.
C'est le tri au milieu des hommes.
Oui, c'est d'améliorer la race, entre guillemets, au sens strict. Hein, eux, bien, la génique, la race, les gènes. Et donc, ils assument qu'au fond, l'humanité devrait décerner des brevets d'humanité dans le commencement de la vie. Qu'il faudrait autoriser certaines naissances et en interdire d'autres. Et là. Bien sûr, il y a de quoi, je pense, se révolter pour pas mal de raisons. Et je me révolte avec mon ami Filippo Zodi Borgo, que vous connaissez, à l'origine du film Intouchable. C'est son histoire qui est racontée dans ce film. Et Filippo Zo nous dit, il nous l'a dit même par vidéo, pour essayer de contester toute cette tendance au suicide et à l'euthanasie qui traverse parfois notre société. Rapprochez-vous de moi, touchez-moi, nous dit-il, et réconciliez-vous avec votre part de vulnérabilité. Parce que nous sommes, et c'est un des propres de l'homme, extrêmement fragile. Et c'est sans doute en assumant cette fragilité, cette vulnérabilité, d'une certaine manière, en assumant que nous avons tous des gènes imparfaits, c'est en assumant notre imperfection qu'on va se relier les uns aux autres et qu'on va être pleinement humain. En imaginant faire une humanité de pur, on tombe dans les pires dérives totalitaires. Et c'est le grand danger, c'est que petit à petit, au debout de la vie, et c'est ce que dit aussi Filippo Zo, eh bien, on écarte ceux qu'on pense indignes d'être des hommes, et voilà qu'on s'écarte soi-même, parce qu'il faut faire semblant d'aller bien et de faire les beaux, et c'est une société de la performance qui s'impose à nous, qui nous fait injonction d'aller bien, d'être beau, bien portant, et non pas incontinent, et non pas ayant des pertes de mémoire, et non pas vieux et moche, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, et de ce fait, il y a aujourd'hui une fuite en avant de l'humanité vers cet élitisme génétique qui est un danger pour chacun.
Alors, vous commencez d'ailleurs votre ouvrage, le premier sous-titre de votre introduction, c'est le défi du millénaire, carrément. Vous avez de nombreuses expressions évidemment frappantes. Et entre autres, vous dites « la science a posé son doigt sur le mystère de la vie », donc on le voit entre autres avec cette citation. Je voulais aussi vous interroger sur la gestation pour autrui, je sais pas, gestation pour autrui ou autre, entre autres l'exemple que vous avez cité au début de cette émission, donc ce premier bébé qui serait né donc d'un père et de deux mères, si j'ai bien compris. Parmi tout ce que vous citez dans votre ouvrage, qu'est-ce que vous voudriez donner à entendre à nos auditeurs qui sont deux, trois exemples symptomatiques en fait, il y a de fait un défi du millénaire et que c'est pas Tugdual-Derville qui se monte la tête.
C'est un défi. Je pense que chaque millénaire et chaque époque a ses défis et je voudrais au fond utiliser ce qui s'est passé sur le plan de l'écologie environnementale. Il y a quelques dizaines d'années, des hurluberlus ont commencé à nous dire on est en train de scier la branche avec laquelle on est assis, on est en train de polluer l'air, d'abîmer les rivières. Quand j'étais jeune, c'était le risque d'une déflagration nucléaire qui était la grande peur. On était capable, avec notre industrie magnifique, de casser la planète. Et donc, plus l'homme est puissant en industrie, plus il doit être sage et humble dans la maîtrise de cette puissance, comme tout être humain. Un petit bébé, quand il commence à grandir, petit à petit, il canalise sa force, sinon il serait un meurtrier en puissance très très vite. Eh bien, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est pas seulement la préoccupation pour nous de léguer aux générations futures une terre habitable, ce qui est un enjeu majeur, hein, une planète vivable pour l'humanité, dont nous faisons partie de la biosphère, c'est l'homme lui-même. Quel type d'homme? Alors, je vous ai cité l'exemple de ce bébé, entre guillemets, à trois parents, génétique, mais pour donner un autre exemple assez frappant, je raconte l'histoire de cette anglaise, Melissa Cook, qui a cru devoir être mère porteuse pour un commanditaire, un homme. Et elle a attendu des triplés, ce qui n'était pas prévu. Il lui a demandé, par la justice, d'avorter d'un de ces triplés, de faire ce qu'on appelle une réduction embryonnaire. Elle a résisté, elle a dit non. Et la justice n'a pas été en mesure de l'obliger d'avorter d'un de ces triplés. Mais à la naissance, on lui a enlevé ses enfants. Et on les a remis au commanditaire qui en a fait ce qu'il devait en faire, ce qu'il voulait en faire, peut-être les confier à d'autres, je ne sais pas ce qu'il en a fait. On lui a arraché ses enfants à la naissance, et c'est aujourd'hui. Et ça m'a rappelé, dans Le meilleur des mondes, la formule, hein, on enlèvera les enfants à leur mère comme on enlève ses œufs aux poules. Hein. Et nous sommes au 21e siècle, et voilà que ce type de comportement inhumain advient, et cette femme d'ailleurs a regretté d'avoir accepté de devenir mère porteuse, c'est-à-dire de devenir une fabricante de bébés pour un commanditaire, avec obligation pour elle de s'en séparer à la naissance, même si elle a pu résister à cet avortement sélectif. Voyez, et il faut prendre conscience que aujourd'hui se développent dans le monde tous ces trafics fondés sur une vision autonome de l'individu, comme si nos désirs devaient l'emporter sur le droit et l'intérêt des plus faibles et des plus fragiles. Ces plus faibles et ces plus fragiles n'ont pas de visage et pas de voix, donc ils ne savent pas se défendre, ils ne provoquent pas d'émotion, tandis que le désir, très respectable, hein, d'engendrer, d'avoir une descendance, eh bien devient totalitaire quand il n'est pas canalisé par des lois humanisantes. Et je propose donc dans mon livre que nous allions rechercher, c'est ce que j'ai fait pour moi-même, hein, quelles sont les lois fondamentales humanisantes qui définiraient l'humanité, qui définiraient une humanité digne de ce mot. Et d'ailleurs, ça m'a fait réfléchir sur le mot humanité. Qu'est-ce que ça veut dire faire preuve d'humanité? Faire preuve d'humanité, c'est simplement prendre soin du plus faible et du plus fragile. Celui que je pourrais écraser et que je relève, celui que je voudrais peut-être spolier et dont je prends soin, celui auquel j'accepte de pardonner peut-être alors que je pourrais me venger. Hein, faire preuve d'humanité, c'est bien ça, n'est-ce pas? Eh bien, une humanité digne de ce mot « humanité », elle est faite de personnes fragiles, elle est faite de personnes qui ont besoin les uns des autres, de personnes interdépendantes et vulnérables, et non pas de gens qui prétendraient s'être fait tout seul, ce qui est le cas d'aucun d'entre nous.
Alors, on va évidemment continuer, je vais pas vous demander de nous lister tous les sujets, hein, enfin, d'inquiétude, mais avant qu'on aille plus loin, j'avais une question à vous poser. Pour ceux qui vous connaissent et qui connaissent enfin, la force de votre engagement et de votre combat, on a envie de vous citer dans votre ouvrage des livres comme vous venez de le faire en fait, qui laisse entendre qu'on serait rentré un peu dans un monde de science-fiction. Est-ce que ce que dit Tugdual-Derville, il arrive à le faire entendre auprès d'un certain public, les auditeurs en l'occurrence qui vous connaissent, ou est-ce que ce combat pour l'homme, c'est, comment dire, cette sonnette d'alarme que vous tirez, vous n'êtes pas le seul évidemment, est entendu par d'autres, et si oui, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples?
Écoutez, je crois que moi j'ai essayé, et c'est une réponse que à la fois je donne personnellement, et puis que corroborée par une des quatre fameuses primautés du pape François, quand il dit « la réalité est supérieure à l'idée ». Et donc je me méfie de l'idéologie, et de la mienne en particulier, des espèces de schémas qu'on peut avoir dans la tête. Et j'ai essayé d'aller voir dans la réalité ce qui se passe, et dans mes fameux pour moi, murs porteurs, c'est-à-dire dans la maternité corporelle, dont nous sommes tous issus, dans le sexus, l'altérité sexuelle, dont nous sommes tous issus, dans cette famille, fragile certes, mais dont on sait bien qu'on n'a rien trouvé mieux pour élever le petit d'homme, eh bien je suis allé chercher ce qu'est le réel. Et alors j'ai eu des échos, en réponse à votre question, de journalistes qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas habituellement d'accord avec moi, mais quand ils ont lu ce livre, ils ont dit c'est imparable.
Par exemple ?
Alors, c'est imparable. Eh bien par exemple, lorsque je montre par A plus B jusqu'où vont ceux que j'appelle les déconstructeurs, c'est-à-dire des grands intellectuels issus d'ailleurs d'une tradition française d'une grande intelligence derrière Michel Foucault, Jacques Derrida, etc. Et quand on voit jusqu'où ils vont, eux et leurs disciples d'aujourd'hui, lorsqu'ils assument, ça m'est arrivé récemment pour citer une radio concurrente sur France Culture, où j'étais confronté à Marcela Yacoub, directrice de recherche au CNRS, qui a écrit un livre qui s'appelle La fin du couple. Et quand j'ai discuté avec elle et que je lui ai dit mais vous allez liquéfier la société avec votre proposition d'arrêter le couple, de dissocier, c'était sa proposition, la sexualité de l'affectivité, de faire en sorte qu'on désapprenne la fidélité, qu'on désaffective la sexualité, qu'on retire, disait-elle, les enfants à leur famille pour qu'ils soient élevés par des structures étatiques qui permettraient d'assumer une égalité entre les enfants. Tout ça, elle le revendique.
Il faut dire que c'est une femme qui a quand même pignon sur rue, c'est pas une inconnue.
Oui, tout à fait. Alors, elle a des positions très outrancières, mais qu'on le mérite au moins d'aller jusqu'au bout de la logique. Et elle m'a dit clairement, mais je veux liquéfier la société. Nous ne valons pas plus que je vaux moins que mon chien, a-t-elle dit. Choquant d'ailleurs les auditeurs. Et j'ai vu une femme fragile, une femme blessée, certes, comme Michel Foucault lui-même, qui était très très fragilisée par toute son histoire, qui a avoué ou admis ou revendiqué que son œuvre était entièrement autobiographique. Et quand il parlait de famille à ses étudiants, lorsqu'il donnait un devoir, il disait « la famille névrotique, c'est-à-dire la famille tout court ». Et donc, j'ai vu à quel point, et je les cite abondamment, un certain nombre de penseurs vont jusqu'au bout de la logique de déconstruction, considérant que l'altérité sexuelle est entièrement construite par la culture, que la famille est une invention dont il faut s'affranchir parce que c'est elle qui nous étouffe, qu'il faut au fond aboutir à une humanité hors sol. Et moi je reviens simplement au réel, que les auditeurs, qu'ils soient chrétiens ou pas, ressentent tous. On sait bien qu'être orphelin ou être apatride, ce sont des mots, M-A-U-X, ce sont des peines, et que nous avons besoin d'enracinement. Je reviens à la grande philosophe Simone Veil, qui dit que tout être humain construit sa liberté à partir d'enracinements multiples, qui sont son histoire. Je ne me suis pas fait tout seul, même si mes parents n'ont pas forcément été idéaux. Il n'y a pas de parent idéal, je ne suis pas moi-même un père idéal. Je viens d'un père et d'une mère, je viens d'une histoire, j'ai des enracinements dans une culture, éventuellement une religion, une zone géographique, et là je construis ma liberté. Mais à prétendre tout couper, et ces êtres humains de leur relation, de ces liens qui les humanisent justement parce qu'ils les mettent en interdépendance les uns par rapport aux autres, on aboutit à une société extrêmement dure, extrêmement cruelle. Alors je vais jusqu'au bout, et encore je me suis un peu censuré parce que j'ai observé qu'un certain nombre de ces théoriciens vont dire oui, mais il faut légaliser la zoophilie, il faut une liberté absolue, et il ne faut pas ériger de normes qui seraient à leurs yeux toujours liberticides, alors qu'on sait bien, je pense par exemple au tabou de l'inceste qui est aussi récusé par un certain nombre d'entre eux, que nous fonctionnons aussi avec des normes sociales qui régulent nos désirs. Et c'est très important. Le désir des forts, des puissants, que je suis parfois, et je suis aussi parfois le faible dans l'histoire, évidemment, ce désir des forts et des puissants doit être régulé par des normes sociales qui nous humanisent. Et c'est comme ça que la société est construite, et elle se construit d'abord et avant tout dans cette famille. Parce que j'ai bénéficié, et c'est peut-être le choix anthropologique que je propose, hein, j'ai bénéficié d'une hospitalité biologique par ma mère. Chacun d'entre nous également. Même si on a été rejeté par notre mère, son corps ne nous a pas rejeté comme un corps étranger. Elle a inhibé ses défenses immunitaires. Et moi, je crois que l'anthropologie du don, c'est-à-dire le fait que l'homme se trouve en se donnant, que l'homme est fait pour se donner, vient essentiellement de cette maternité universelle. Alors que la formule « l'homme est un loup pour l'homme », eh bien, nous empêche de vivre ensemble. Et on le voit bien en France aujourd'hui, où nous sommes en quête de nos racines aujourd'hui, familiales, oui, parce que la nation est une famille de familles. La France est en quête de ses racines parce que nous avons une grosse angoisse désormais, que nous nous apercevons que quelqu'un peut se faire sauter au milieu de nous, dans une gare ou ailleurs, que l'homme devient effectivement là un loup pour l'homme. Du coup, mon livre, si j'ose dire, est une parole prophétique parce que je nous invite à recevoir cette anthropologie du don pour en vivre en vivent paisiblement et protéger les plus fragiles.
Voilà, vous faites l'autopromo de votre livre, mais en tout cas, je suis d'accord avec vous. Voilà, je sais pas si je peux m'engager comme ça, quoique ça nous arrive de saluer des livres. On va faire une première pause. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le temps de l'homme pour une révolution de l'écologie humaine aux éditions Plon. Et puis après cette pause, on va reparler de cette grande mobilisation qui a été donc une révolte anthropologique sur laquelle vous revenez, qui a été donc les manifestations autour du mariage pour tous, que vous décryptez et dont vous donnez aussi quelques clés pour que cela continue. Ce matin, donc, une émission avec Tugdual Derville, Le temps de l'homme, titre de son dernier ouvrage, Le temps de l'homme pour une révolution de l'écologie humaine, aux éditions Plon, qui nous fait l'amitié de passer par les studios de Radio Présence à l'occasion d'un de ses passages à Toulouse. Alors, ce qu'il y a de bien avec vous, c'est qu'on vous écouterait pendant des heures. Peut-être qu'un jour, on aura la chance que vous restiez longtemps à Toulouse, comme ça on fera une série d'émissions. Je voulais revenir avec vous sur cette grande mobilisation qui a été la Manif pour tous. J'ai envie de dire, on aime ou on n'aime pas, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Je sais que même chez les chrétiens, c'est une mobilisation qui a fait débat, y compris ici en Midi-Pyrénées.
Je le comprends, oui.
Toujours est-il que vous avez été la porte-parole de cette manifestation, et puis vous y revenez, même si c'est pas un livre, on va dire, qui fait l'apologie de la Manif pour tous. Et alors, on va pas revenir sur l'ampleur de cette mobilisation, mais vous dites à un moment, alors il faudrait que je retrouve la citation, que cette manif qui a été vécue par un échec, comme un échec pour un certain nombre de personnes, elle ne venait pas, je vais y arriver, de nulle part, et que ce que vous appelez une révolte anthropologique ou un réveil français autour d'une révolution, révolte anthropologique ou une révolution anthropologique, elle n'est que la face émergée de l'iceberg. Alors quel est cet iceberg qui existerait en France et qui a permis cette manifestation ?
Alors, c'est vrai que je me suis interrogé comme vous, comme tous, parce que tout est arrivé par surprise, pas forcément par hasard, mais par surprise, et même ceux qui ont prétendu, comme moi et d'autres, canaliser ou organiser les choses, parce qu'il y avait une foule immense, eh bien ont été stupéfait de cette poussée de la base, c'est comme ça qu'on l'appelle dans ce genre de mouvement social. J'ai cherché, et Pierre-Yves Gomez, qui a cofondé avec moi le courant pour une écologie humaine, m'a dit à un moment, et je le reprends dans ce livre, que c'était vraiment un mouvement social typique, c'est-à-dire spontané, anarchique, foisonnant. Les trois critères, spontané, ça semble venir tout seul, anarchique, personne ne le maîtrise véritablement, oui, foisonnant.
Parce que les gens n'avaient pas des têtes d'anarchistes pour le coup.
Oui, oui, mais anarchiste au sens où personne ne le dirige vraiment et qu'il y a des figures de proue qui passent, d'autres, etc. Mais que c'est les personnes qui se mobilisent, et puis foisonnant, ça se ressème en beaucoup d'autres initiatives, ça qui est le plus frappant. Alors, quand on revient sur peut-être la cause profonde, bon, d'abord, ça a appuyé là où, sur l'intime de chacun, c'est-à-dire sur notre identité sexuée. Je suis un homme, je suis une femme, je suis issu d'un homme et d'une femme, et à partir du moment où une loi prétend rendre interchangeable le père et la mère, ça fait appel à quelque chose qui est très intime, à notre humanité profonde, ce que ne voyaient pas du tout les promoteurs de cette loi ou ceux qui l'ont imaginé. Ils pensaient que ça ne considérait qu'une petite minorité, mais en touchant au mot mariage, en changeant sa définition, on touche à l'anthropologie profonde, et c'est là que ça a été la goutte d'eau qui a fait un peu déborder le vase. Alors pourquoi ces gens se sont levés? Moi je pense qu'il y a dans l'esprit français une résistance au pouvoir lorsqu'il se fait tout puissant, parce que redéfinir un mot, c'est une forme de violence, et c'est une forme de toute puissance. Ça n'appartient pas normalement aux politiques que de changer le sens des mots qui structurent une société. La société se structure à partir de la famille. La famille est le premier lieu d'émergence de la vie politique. C'est le lieu où naît l'autorité légitime et paritaire, homme-femme. Hein, on se gargarise souvent de la parité dans le gouvernement et je dis très bien que les femmes aient plus de place quand il y a une culture machiste. Mais c'est là que, c'est dans la famille que naît cette autorité. Et casser les repères fondateurs de la famille, casser notamment cette altérité homme-femme, cette parité originelle, c'est extrêmement grave pour la structuration sociale. C'est ce qu'ont ressenti les personnes. Et après, je me suis dit, ça ne vient pas de nulle part parce que, j'utilise un gros mot, l'âme de la France s'est réveillée. Quelque chose de l'âme de la France. Pierre Manant, qui a écrit « Situation de la France », un petit essai après la première série d'attentats, a pris soin de mettre le mot « providence » dans son essai. Il y a quelque chose de mystérieux. Et je me suis souvenu aussi de Jean-Paul II, j'étais au Bourget lorsqu'il est venu la première fois en France et qu'il a dit « France, éducatrice des peuples, qu'as-tu fait de ton alliance avec la sagesse éternelle ?» Ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la marchandisation du corps, ben c'est quelque chose aussi qui a trait à ça. Comment ça se fait que la France ne se laisse pas écraser par l'utilitarisme anglo-saxon ? Et donc moi j'ai vu dans ces manifestations l'émergence.
Parce que là, vous en faites une lecture quasi spirituelle, mais à vous lire, en fait, c'est comme s'il y avait déjà en fait un substrat, social, je sais pas comment on peut, ou sociétal, qui était prêt et à vous lire, peut-être pas que chez les chrétiens,
bien sûr,
à cette révolte anthropologique.
Parce qu'on est, on est à radio présence dans le temps présent. J'en dis plus là. Je donne quelques petites clés qui me sont personnelles, et clés un peu spirituelles. Mais effectivement, vous avez raison. Ce que je dis dans mon livre, au fond, c'est que ce qui s'est manifesté, c'est ce que j'appelle le mycélium. Alors le mycélium, c'est la structure vivante du champignon. C'est-à-dire, ce que les chercheurs de champignons connaissent, c'est qu'il ne s'agit pas simplement des chapeaux qu'on va chercher pour les manger ou ne pas les manger s'ils sont mortels, mais c'est la vraie vie du champignon, elle est souterraine. Et elle ne se voit pas, sauf dans les fameux rondes sorcières, dans les prairies permanentes, où on voit un cercle parfait d'herbes un peu plus vertes, et on sait que là-dessous, il y a des rosées des prés, par exemple. Et donc, ce qui est important, c'est non pas ce qui se voit, mais ce qui se vit. Et les manifestations éphémères et spectaculaires, qui sont pas toute la vie, révèlent une vitalité souterraine. Cette vitalité souterraine, c'est celle de l'anthropologie, ce que j'appelle l'anthropologie du don. Il y a en France des millions de personnes, et peut-être même beaucoup plus que les auditeurs ne le croient même, qui en font partie, des millions et des millions de personnes qui considèrent qu'ils se trouvent en se donnant à leurs proches, autour d'eux, dans la fidélité, la confiance, la fidélité sexuelle, l'engagement, le don d'eux-mêmes aux plus fragiles. Il y a donc un substrat, un humus, dans l'humus de la société, ce mycélium, à un certain moment donné, émerge et se voit. Les idéologies mortifères qui ont balayé le XXe siècle, avec des dizaines de millions de morts à la clé, sont passées, qui pensaient enterrer ce mycélium d'écologie humaine, qui ne portait pas forcément ce nom. Cette anthropologie structurante et structurée sur ce que j'appelle la boussole de l'écologie humaine, tout l'homme et tous les hommes. Tout l'homme, dans toutes ses dimensions, physique, psychique, intellectuel et spirituel, sans amputer cette dimension spirituelle que le laïcisme voudrait bien éradiquer au risque d'éradiquer l'homme lui-même, tous les hommes, sans en exclure aucun. Le tout petit commencement, le très grand âge, les personnes dépendantes, les gens qui vivent à l'autre bout du monde. Cette boussole de l'écologie humaine, elle anime le cœur de beaucoup et beaucoup d'entre nous, et ils se sont retrouvés assez naturellement à s'élever lorsqu'un mur porteur de l'anthropologie s'est trouvé menacé. Et du coup, on s'est vu en sortant, les champignons se sont vus, ah, je ne suis pas tout seul, mais je suis, parce que un tel engagé dans une association humanitaire, l'autre caritative, l'autre spirituelle, l'autre culturelle, se sont retrouvés partageant ce souci de l'homme. Et à partir du moment, les champignons, vous savez, ont des spores sexuées, à partir du moment où ça s'est ressemé, foisonnement, naissance de plein d'initiatives, les veilleurs, les sentinelles, des initiatives dans le champ politique, dans le champ spirituel, extraordinaire. Il ne se passe pas une semaine sans que je rencontre un jeune ou un vieux qui me dit que sa vie a changé parce que désormais, il choisit l'homme dans ses engagements professionnels ou associatifs, qu'il ne se laisse plus étouffer par le système, qu'il se met en position de devoir l'ouvrir et non plus la fermer, comme certains me l'ont dit. Et donc moi je pense qu'il y a là comme un retournement. Il y avait à la fois, et je réponds encore peut-être à votre question, mais en quelques mots, à la fois une vitalité souterraine qui s'ignorait, l'émergence de ces manifestations dont je conviens qu'elles sont ambivalentes dans les mobiles. Moi-même, je suis toujours ambivalent. C'est compliqué d'être vraiment au service de la vie et de la vérité. Et puis ensuite, ça se ressème en nouvelles initiatives. Donc, il y a une promesse de changement culturel.
Alors, vous avez dit que c'était une révolution, c'était une révolte anthropologique, mais peut-être faut-il rappeler les propos de Madame Taubira, qui appelait elle-même à une, je ne sais plus exactement comment l'intituler,
mais c'est un changement de civilisation.
Voilà.
C'est vrai.
Est-ce que vous pouvez nous redire en quoi cette loi est un changement de civilisation ?
Moi, ce que j'ai vu, et la raison pour laquelle j'ai parlé d'écologie humaine, c'est que à l'insu des personnes qui l'ont revendiqué, pour beaucoup d'entre elles, et celles qui pensaient devoir bénéficier de ce mariage entre guillemets pour tous, c'est un piège d'ailleurs, le mot pour tous, c'est pas pour tous, il y a des gens qui peuvent se marier, bref, c'est un piège dialectique, c'est surtout l'adoption, le mariage et l'adoption entre personnes de même sexe, c'est ça la loi en réalité, qui était cachée derrière le slogan. Mais ce qui est en jeu, le plus important, c'est qu'on a promis à deux hommes ou à deux femmes de pouvoir adopter des enfants. Ces enfants n'existent pas sur le territoire national, il n'y a pratiquement plus d'enfants adoptables, pour plein de raisons. Ils existent de moins en moins en plan international.
Donc il faut rappeler qu'il y a une automaticité entre le mariage de deux personnes homosexuelles et la possibilité d'adopter.
Exactement. Après, il faut bien sûr un agrément, mais disons que le mariage...
Donc le mariage ouvre la porte.
En France, contrairement à d'autres pays, le mariage ouvre la porte à la filiation, et donc il faut bien ensuite... donc on promet l'impossible, apparemment. Il faut donc fabriquer ces enfants. Comment les faire, si ce n'est artificiellement, si ce n'est par des systèmes de contrats, soit avec des mères porteuses ou de la gestation par autrui, c'est comme ça que je l'appelle maintenant, c'est-à-dire par une autre femme, un éclatement de la maternité, soit par des systèmes artificiels où on escamote le père pour des femmes. D'ailleurs, Jacques Attali a écrit en 2013, et je la cite assez abondamment, une tribune dans Slate.fr, où il dit lui-même que le véritable enjeu caché derrière cette loi, qu'il considère lui comme anecdotique, ce qui n'est pas mon point de vue, c'est, dit-il, l'ectogénèse, la matrice artificielle, c'est-à-dire la maternité par des machines. Et effectivement, là, on s'aperçoit que l'étape de la mère porteuse pose problème, parce que les entrailles maternelles parlent à un moment donné. Cette femme que j'évoquais tout à l'heure, qui veut pas réduire, entre guillemets, à deux ces trois enfants qu'elle porte.
La femme que vous citiez, je rappelle, pendant au début de l'émission. Donc,
Madame Mélissa Cook, voilà. qui avait des enfants, effectivement, par gestation ou par autrui, et qui était menacée de devoir avorter de l'un d'entre eux. Et donc, à partir du moment où cette maternité est éclatée et où on s'aperçoit que les femmes résistent à être des machines, eh bien, il faudrait des machines, et certains le promettent. Je pense au livre de Henri Atlan, L'utérus artificiel. Certains pronostiquent dans quelques dizaines d'années qu'on naîtra de machines et non plus de femmes. Et Marcela Yacoub, à nouveau, l'autre jour, lorsque j'évoquais la grossesse, m'a rétorqué directement « Non, non, ne parlez plus de grossesse, ça sera bientôt pour les femmes qu'un mauvais souvenir ». Voilà ce qui est sous-jacent d'ailleurs. Les promoteurs de loi ne savent pas forcément, mais c'est une accélération vers la perspective transhumaniste, vers l'homme objet. Parce que ce qui se passe à partir du moment où on commande des êtres humains à des producteurs, entre guillemets, que ce soit de gamètes, d'embryons ou des mères porteuses, c'est qu'il y a des contrats dont l'objet est un être humain. Si l'être humain n'est pas conforme, on le jette. Donc l'être humain est traité comme un objet, il y a des factures, on le trie, il y a des déchets d'homme, comme le dit le pape François. Et voilà le risque que cette rupture anthropologique, c'est pas forcément celle qu'annonce c'est Madame Taubira, mais cette rupture anthropologique, c'est que l'homme ne n'est plus libre et égal en droit. L'homme naît comme un projet. C'est très complexe, en tant que père, en tant que parent, de consentir à la surprise, à l'imprévisible de nos enfants. Nos enfants qui ne... nous appartiennent pas, qui doivent s'affranchir aussi de nous et qui en même temps reçoivent de nous. Un être humain qui devient un projet livrable, en bonne santé, sinon on ne le prend pas, comme ces commanditaires australiens qui ont refusé l'enfant trisomique dans un pays d'Asie, et la maman finalement a accueilli son petit enfant trisomique parce que c'était elle la mère qui aimait cet enfant. Les commanditaires n'ont dit il n'est pas assez bien pour nous, vous voyez. Ça, c'est une rupture anthropologique fondamentale et qui connaît une accélération par cette loi. Mais après, moi je me suis dit finalement, bienheureuse loi Taubira, qui nous permet justement de prendre conscience de ces enjeux et de se préparer à y résister.
Alors peut-être pour tous ceux qui encore, même s'ils vous entendent, ont des doutes sur, émettraient des doutes quant à vos propos, parce que vous citez un certain nombre d'intellectuels ou de possibles, peut-être pouvez-vous faire écho au récent débat qu'il y a eu sur le délit d'entrave et au débat qu'il y a eu à l'Assemblée nationale sur ce sujet, pour revenir sur ce projet parental, c'est-à-dire le fait donc que la naissance d'un enfant serait aujourd'hui subordonnée en fait au fait qu'il y ait projet parental ou pas. C'est-à-dire, est-ce que c'est seulement quelques intellectuels qui parlent de cela, ou est-ce que c'est un danger potentiel, ou est-ce que de fait c'est déjà une réalité ?
Ah, vous faites écho, je pense bien sûr, au propos d'une parlementaire socialiste qui a dit que l'enfant n'avait d'existence, même virtuelle, que dans un projet parental, et que ce n'est pas ce projet parental, n'existait pas. Et elle a rajouté d'ailleurs, et si par hasard il naissait, il aurait besoin de psychologue parce qu'il n'avait pas été désiré. Bon, c'est sûr que là, je résiste, mais c'est l'écoutant qui résiste. C'est celui qui a entendu tellement et tellement de personnes qui n'ont pas forcément été désirées, mais qui ont été accueillies. D'autres qui ont été très 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 désirées, mais qui ont été comme étouffées. Et puis d'autres qui ne savent plus très bien, ce qui est le cas de beaucoup, si leur arrivée sur Terre a été la source d'angoisse, de peine, de désir, de rejet. Donc il y a une idéologie derrière cette notion de projet parental, assez caractérisée par ce slogan d'une marque de puériculture qui disait « réussir votre bébé ». Voilà, ça c'est le grand danger, parce que il nous fait injonction de contenter aussi nos parents, alors qu'en fait le but de notre vie c'est pas de contenter nos parents, c'est d'exister, de nous déployer dans notre histoire, et pourquoi pas dans notre mission, notre vocation, dans nos talents, disons. Et donc il y a effectivement aujourd'hui en France une évolution de société qui fait qu'on fait comme injonction aux femmes de réussir leur bébé comme des projets, c'est-à-dire de les planifier, de les programmer, alors qu'on s'aperçoit qu'il y a bien des fois dans nos existences où l'inattendu, l'imprévu, la surprise est ce qui oriente nos vies. Ne serait-ce que dans une seule journée, je me lève le matin, je me couche le soir, si tout était prévu entre le matin et le soir, si tout était prévu d'avance, quel intérêt de vivre ? Et donc, il y a effectivement une pression qui pèse désormais pour traiter la procréation comme on traiterait un plan de carrière ou un projet, ce qui va tout à fait à l'inverse des intérêts, des besoins fondamentaux de l'être humain qui doit continuer d'être une surprise. Dans chaque rencontre, dans chaque échange de paroles, il y a la grâce du présent, la grâce de cette surprise. Et bien sûr, chaque être humain profite de cette grâce dans tous les champs de sa vie.
Alors peut-être avant qu'on fasse une deuxième pause musicale, je voulais revenir un petit peu sur le... Il y a tout un chapitre en fait où vous revenez justement sur les raisons pour vous qui font que cette révolte est née en France. On avait dit un mot déjà. Alors il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Évidemment, on est sur une radio chrétienne, donc on peut faire écho à ce que vous disiez. Vous dites en gros que la France est la pays, c'est comme un pays qui aurait comme mission une mission protectrice en fait à l'égard de l'homme. Comment vous résumeriez ça? Et si donc, vous deviez redire quel était le substrat en fait de cette...
Oui, la question, je voudrais pas adopter une posture messianique parce que ça serait décalé par rapport à notamment un chrétien qui sait que le Messie est déjà arrivé et qu'il a déjà gagné. Bon, mais c'est plus quels sont les talents spécifiques d'un peuple. Et il y a quelque chose qu'on remarque en France, c'est que la France a un souci très fort de la personne. C'est les fameux droits de l'homme qui, même s'ils sont parfois dévoyés, disent quelque chose de notre souci de l'être humain. Et puis c'est un côté, un rayonnement, qui est parfois appelé arrogance, mais la France est soucieuse de l'universel. Pour ce qui concerne la personne, je peux donner simplement comme exemple qu'en France, on ne vend pas les produits du corps humain. On ne vend pas son sperme, on ne vend pas son sang, on ne vend pas ses organes, on ne vend pas ses embryons. La France, sur ce plan, parce que ce serait contraire à la dignité de l'homme. L'homme est inviolable, n'est pas échappe à la marchandisation. Ce qui n'est absolument pas le cas aux États-Unis, où il y a des banques de sperme de prix Nobel et d'ovocytes de top modèle, pour reprendre des stéréotypes du genre malheureusement existants dans ce genre de système où l'homme devient une chose qu'on acquiert sur catalogue. Et c'est pas le cas en France. La France résiste à ça. J'ai trouvé très intéressant de voir dans le travail que nous faisons pour lutter contre la gestation par autrui et demander son abrogation universel, de voir que il y a tout un mouvement à gauche, le Corp, qui lutte avec Sylvana Gazinski et d'autres contre ce type de...
Gazinski, donc, l'épouse de Diana Jospin,
qui est philosophe, qui s'engage très très fortement sur ces sujets. Je cite dans Marie-Jo Bonnet, qui est une fondatrice des Gouines Rouges et qui est militante à l'origine du MLAC, un mouvement de libération ultra-féministe, hein, et elle dit elle-même que contre la gestation par autrui, que toute femme est maternelle et que même ceux qui ne peuvent ou ne veulent donner la vie ont en elle quelque chose de maternel, ne serait-ce que sur le plan spirituel. Et là, je suis plein d'admiration pour cette femme qui ose, au nom de ce qu'elle voit, de la spécificité des femmes, lutter contre la femme objet. Et c'est une Française, voilà. Et à l'autre, dans d'autres champs, bien sûr, culturels ou spirituels, d'autres personnes luttent. Et j'y vois cette résistance de l'âme française, justement, dans la défense de la personne. Puis le côté universel, ben, c'est sûr, j'ai évoqué tout à l'heure la formule de Jean-Paul II, éducatrice des peuples, qui est peut-être un tout petit peu politiquement incorrecte, mais enfin, c'est un pape polonais qui nous l'a dit. La France est attendue. C'est surprenant, la France est attendue sur ces sujets. La France est paradoxale. J'ai un ami québécois qui m'a dit, vous, votre pays, le pays de la pornographie, hein, le pays avec vraiment, c'est comme ça que je le voyais, avec beaucoup de mépris, disait-il. Et puis il a vu ces manifestations, il a vu ce réveil, et il s'est dit, il s'est rappelé un de ses amis qui lui avait dit, mais regarde ce qui se passe en France. Il se passe en France des choses parce qu'il y a une résilience. Le pays de ce qu'on a appelé la French Theory, c'est les Américains qui ont appelé ça comme ça, des grands déconstructeurs que j'évoquais tout à l'heure, et il y en a encore quelques autres qu'on n'a pas cités, c'est aussi le pays d'un très grand laïcisme, où de ce fait, le fleurissement de l'anthropologie du don est plus fort. Comme ces arbres fruitiers, qui, on le sait, après une grande période de sécheresse, sont capables de réagir par un surcroît de floraison. Donc il y a que ça aussi en France. Parce qu'en France, argumenter n'est pas facile. En France, l'étiquette chrétienne est souvent infamante. Et du coup, il ne s'agit pas de la brandir comme ça, ça n'a pas grand intérêt, il faut argumenter. Il faut argumenter dans le réel. Hein. Et c'est ce pape François qui nous dit « le réel est supérieur à l'idée ». Allons argumenter dans le réel, et de ce point de vue, la France qui est une terre de culture, dans tous les sens du terme, est fournie, hein, fournie des résistants aujourd'hui à cette culture de la marchandisation du corps, de l'atomisation de la société, de l'individualisme égotique qui menace les plus fragiles.
Je rappelle le titre de votre ouvrage, mais l'émission n'est pas finie. Le temps de l'homme pour une révolution de l'écologie humaine aux éditions Plomb. On fait une deuxième pause et puis on vous retrouve à la fin en forme de conclusion. Ce temps de l'homme que vous appelez de vos voeux et qui pour vous est déjà là. Quels sont les quelques piliers sur lesquels il faudrait le fonder ? Ce matin, donc, cette émission Vivante Église avec Tuguel Derville, auteur d'un ouvrage Le temps de l'homme pour une révolution de l'écologie humaine, je ne sais pas ce que j'ai ce matin, aux éditions Plomb. Alors, Tuguel, vous nous avez aidé donc à dresser un panorama, en tout cas, c'est ce que vous faites dans votre livre, un petit peu de la situation, décrypter cette grande révolte anthropologique qui a eu lieu donc à l'occasion de la Manif pour tous. Et puis, tout au long de votre ouvrage, comme au long de cette émission, vous redites à votre avis ce qui fonde cette humanité et ce qui fonde, on va dire, cet homme même. Dans cette dernière partie, je voulais voir avec vous un peu comment canaliser ce sursaut anthropologique. Entre autres, vous citez à plusieurs reprises un certain Vaclav Havel et Vaclav Benda, et vous nous donnez quelques ressorts clés de cette révolte.
Oui, j'ai été très impressionné par la découverte de textes de ce dissident tchécoslovaque, ces deux dissidents, amis d'ailleurs tous les deux, et notamment Vaclav Benda, qui avait écrit sous le manteau une note clandestine, hein, qui s'appelait « Police parallèle », comme « Cité parallèle ». Et face au totalitarisme de son époque, de l'URSS, il proposait, je le cite en substance, de « occuper toutes les sphères que le pouvoir totalitaire laisse vacants », pour y instaurer ce que son ami Vaclav Havel appelait la vie dans la vérité. Et c'est ce que je crois que nous pouvons et devons faire chacun en se reconnaissant comme responsable politique. Plutôt que d'attendre le leader providentiel, vous savez, il y a un tropisme français un peu éperdu de dire qui va nous sauver. Est-ce que ça va être celui-ci ou celui-là? Je donnerai pas de nom, hein, parce qu'on est en période électorale, mais on voit bien que les regards se portent sur l'un ou l'autre, hein, il va nous sauver. Et en fait, bon, si je suis chrétien, je dis nous sommes déjà sauvés, mais même pour toute personne, je dis dis, mais c'est à nous d'être, de construire cette société de justice. C'est à nous d'être des initiateurs dans le domaine social et humanitaire. Et la formule de Benda est très intéressante parce qu'il dit que c'est ce que j'appelle, moi, ces oasis de vie dans la vérité, eh bien, il faut qu'elles se relient, qu'elles se parlent et que progressivement, il y ait ce qu'il appelle une fusion des cités, la cité totalitaire, qu'elle soit comme contaminée par celle de la vie dans la vérité, qui va l'humaniser. Et donc, c'est ce qu'on voit quand des gens, en tant que fonctionnaires, que responsables politiques, que magistrats, qu'enseignants, et on peut citer tous les métiers, du plus humble au prétendument le plus glorieux, eh bien, quand toute personne est prête à humaniser la société, ce que Pierre-Yves Gomez, qui a cofondé avec moi le courant pour une écologie humaine, appelle à hauteur d'homme. C'est-à-dire à proximité, en se reliant. Et c'est l'inverse de cette société d'individus qui serait manipulée par des normes étatiques leur tombant de très très haut. C'est à chacun d'entre nous de construire cette société. Et tout à l'heure, je vous disais, ce qui se vit est plus fort que ce qui se voit. Et au fond, c'est ça qui se passe. Il y a une sorte de tissu qui se construit dans une société qui a été liquéfiée par l'autonomisation exagérée des individus, eh bien des personnes qui se relient, qui assument leurs responsabilités, petit à petit font un tissu vivant. Et les idéologies passent avec le vent, mais demeurent ce tissu vivant, parfois souterrain, et peu importe que la pensée unique cherche à étouffer, ce qui est important, c'est qu'on continue autour de nous de créer cette société de la vie dans la vérité. Le fait de se savoir très nombreux est bien au-delà d'un mouvement social, parce que beaucoup de Français sont sensibles à ça, qui agissent dans leur village, un peu partout. Moi, j'ai pris des leçons d'écologie humaine dans mon village en Vendée, lorsque j'ai vu au lendemain d'un incendie que tous les hommes du village étaient montés sur le toit pour réparer la maison du voisin, ce que j'avais pas du tout eu en tête, moi. Donc partout, je pense que nous pouvons assumer d'être des tisserands de cette société d'écologie humaine.
Mais alors, vous donnez quelques clés, malgré tout, je reviens. Donc, vous faites écho à un discours de Vaclav Havel de 1997. Donc, peut-être que vous pouvez redire en deux mots qui était Vaclav Havel. Vous donnez trois clés à la suite de ce discours, comme pour. Et comme. Enfin, je ne sais pas, ça peut servir de boussole ou d'aiguillon à cette mobilisation collective.
Ah bien oui, je les synthétise en disant que voilà, sursaut de la conscience, élargissement de la bienveillance à l'ensemble de la création, essor spirituel. Alors on voit cette conscience.
Ça veut dire quoi si vous deviez détailler les trois?
Oui, bien cette conscience, c'est que il faut que nous regardions en face la situation plutôt que de distribuer les bons et les mauvais points et que nous découvrions que c'est à nous d'être acteurs. Le risque, ça serait simplement de constater, d'observer ou de déplorer. Ça n'a pas grand intérêt. Ce qu'il faut, c'est transformer en blessure personnelle la situation de notre pays, autour de nous, du plus proche au plus lointain, suivant ce que notre cœur voit, pour devenir acteur d'un changement qui nous implique. Ça, c'est très important. La conscience le permet. La bienveillance doit être élargie à l'ensemble de la création, c'est-à-dire avoir une vision globale de cette société et de cette biosphère dont nous sommes, nous, les êtres humains, la plus belle émergence, mais nous dépendons de cette biosphère. Donc, c'est un respect de la nature, mais qui commence par le respect de la nature de l'homme, d'où l'expression écologie humaine. Et puis essor spirituel parce qu'on ne peut pas s'en sortir si on ne s'en sort pas par le haut. C'est-à-dire à croire que l'homme, et c'est la grande tentation du siècle, est soit un robot, soit un animal, eh bien on risque de déshumaniser l'humanité. Et donc nous devons accueillir ce que moi j'appelle l'humble grandeur de notre humanité. Nous sommes certes vulnérables, mais nous sommes épris d'absolu. Et ça, c'est une façon de récuser toute amputation de la dimension spirituelle de l'humanité. Au-delà même des religions, tout être humain a envie de laisser dans l'humanité une trace de sa dignité par le fait justement qu'il se relie aux autres, aux générations futures, à ceux qui l'entourent. Il en va de notre dignité humaine. Et du coup, c'est un appel à ce que chacun simplement ressaisisse son humanité, voyez, humble grandeur. Nous ne sommes pas tout puissants, nous ne sommes pas ces dieux que certains voudraient que nous soyons lorsqu'ils imaginent un homme tout puissant, le fameux post-humain. Nous ne sommes pas non plus des animaux mus par nos instincts, nous sommes des êtres humains qui avons cette dimension au fond de notre être, ce sanctuaire inviolable de la conscience, pour reprendre la formule que Jean-Paul II utilise dans l'Évangile de la vie, ce lieu où nous sommes attirés par le bon, le bien et le vrai. Et voilà ce qui nous épanouira le plus, ce qui conduira à notre bonheur si nous sommes capables, dans le sanctuaire de notre conscience, moi ce que j'appelle le fort intérieur, avec un petit jeu de mots, parce que c'est comme une forteresse à protéger de l'extérieur, et parce que ça nous permet de laisser s'exprimer notre liberté, hein, dans le silence de notre vie intérieure, l'être humain est appelé à se dépasser. Voilà, à se donner et à se dépasser. Et voilà donc, je pense, cet essor qui, selon aussi les formules de Vaclav Havel, peut sauver l'humanité de cet éclatement communautariste, violent, et qui, on le voit, menace même notre société française aujourd'hui. Et donc nous avons besoin de nous enfoncer dans cet humus social à la proximité des autres. Et peut-être une des clés, si vous permettez, que je donne aussi, c'est de ne pas perdre de vue les plus fragiles.
Alors justement, j'allais venir peut-être pour finir l'émission. Vous en parlez aussi, vous parlez de l'importance de la vulnérabilité, puis vous appelez de vos voeux presque une culture de la vulnérabilité qui se construit sur la confiance, l'altruisme et la gratuité et qui fonde trois primautés. Voilà, ces trois primautés m'ont marqué, en tout cas la manière dont vous le formulez. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous entendez par cette culture de la vulnérabilité pour faire écho à votre engagement que vous citiez au début de cette émission, donc en fondateur de cette association à bras ouverts, association donc qui vient en aide, en tout cas qui accompagne des personnes handicapées. Culture de la vulnérabilité et ces trois primautés pour finir.
Alors, en ce qui concerne cette culture de la vulnérabilité, moi je pense que les plus fragiles sont des marqueurs d'humanité, parce que c'est vous, c'est moi. Au fond de tout être humain, c'est Gertrude von Lefort qui le dit, il y a comme un petit enfant inconsolable. Et ça, c'est bien nous au plus profond. Et de ce fait, si on donne toujours la première place, si on a toujours le souci du plus fragile, alors on va protéger toute l'humanité. Un petit peu comme dans les mines où on mettait à une époque une cage avec des petits oiseaux, et si les oiseaux mouraient, les mineurs remontaient en vitesse parce qu'il y avait un coup de grisou qui s'annonçait. Mais ils sont nos marqueurs, bien sûr des êtres humains, des marqueurs d'humanité. La place que nous leur faisons, ça montre l'image que nous avons de nous-mêmes aussi. C'est-à-dire, est-ce qu'on s'accueille pour ce que nous sommes? Voilà, pour la vulnérabilité, il y aurait peut-être beaucoup à en dire. Mais aussi, peut-être, oui, je voudrais dire, c'est l'expérience que j'ai eu au tout début. J'ai commencé mon engagement, on peut dire, en rencontrant un jeune porteur, un petit enfant porteur d'un handicap. J'ai été comme émerveillé. C'est cet émerveillement que je pense qu'il faut que nous continuions de cultiver. Et c'est une expérience universelle. Le plus fragile, un jour, m'apprend qui est l'homme. Il m'apprend au plus profond qui est l'homme. Il y a un tressaillement de joie qui nous est donné lorsque nous voyons qu'il est révélé au plus petit quelque chose de l'homme que je ne pouvais pas trouver par moi-même sans cette rencontre avec le plus petit. Et ça, c'est, je veux dire, l'antidote absolu au fantasme transhumaniste, c'est de rester près des fragiles pour les respecter. Voilà, et après, j'ai effectivement... Alors, il faut que je me rappelle les trois primautés, parce
je vais
que
je vous les citer. Sous les yeux. Mais elles fondent, cette culture de la vulnérabilité, et puis on va finir là-dessus, fondent trois primautés. Alors, je le dis parce que ça m'a marqué dans votre ouvrage, celle de l'être sur l'avoir, celle de la relation sur l'activité et celle de la tendresse sur l'autonomie.
C'est vrai que moi, ça m'a beaucoup marqué à bras ouverts ou chez Petit Frère des Pauvres où j'ai travaillé et encore dans mon action comme père de famille ou autre. C'est voilà, l'être, ce que je suis est beaucoup plus important que ce que j'ai et c'est bien de ne pas attendre le lit de mort pour en prendre conscience. La relation que j'ai avec une personne est bien plus importante que l'activité qu'on fait. Quand on est en train d'aller à la pêche avec son fils, bien sûr, on est très content de pêcher des poissons et moi ça me mobilise, etc. Mais l'essentiel c'est d'être ensemble pour le faire. Il y a même des gens qui font exprès de faire des activités pour être ensemble. Et puis la tendresse sur l'autonomie, parce qu'ultimement c'est la tendresse dont nous avons besoin et pas d'être seul et pas de se croire seul. Et quand on se croit seul et autosuffisant, etc., fait tout seul, le jour où vient la dépendance, on est désespéré. Et donc on s'aperçoit que c'est... Ça ne veut pas dire que l'avoir n'est pas important, que l'autonomie n'est pas importante, que l'activité n'est pas importante, mais ces primautés, ça va nous aider peut-être à réviser nos relations dans une famille, sans attendre, je l'évoquais, une fin de vie ou une grande dépendance qui parfois, de manière surprenante, fait éclater l'humanité d'une personne. Et j'en ai eu parfois l'expérience. Quand une personne devenue dépendante devient tendre, bienveillante et présente, alors qu'avant, elle était comme enfermée en elle-même, absente et froide. Et donc, peut-être que nous pourrions choisir, effectivement, ce qui n'est rien d'autre que cette humanité dans nos relations, en accueillant le fait qu'on ait besoin des autres pour avancer dans la vie, se laisser envoyer et aussi se laisser consoler.
Eh ben, merci beaucoup, Tuc Dalderville. Le titre de votre ouvrage, Le temps de l'homme pour une révolution de l'écologie humaine aux éditions Plomb. Merci beaucoup.
Merci Emmanuel
d'être passé par nos studios.
Merci beaucoup.
Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.